VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Lydia Abidjan, 13h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. En Afrique du Sud, la justice sud-africaine a rouvert ce vendredi la voie à un éventuel procès pour corruption contre le président Jacob Zuma dans une affaire de vente d'armes qui tient les Sud-Africains en haleine depuis une bonne dizaine d'années. Dans un jugement lu à l'audience par le juge Eric Litch, la Cour suprême d'appel de Bloemfontein dans le centre du pays a rejeté un appel du chef de l'État contre la décision de relancer contre lui 783 inculpations de corruption, fraude fiscale et extorsion de fonds dans le cadre de ce dossier. Très attendu, cette décision renvoie la balle dans le camp du parquet général sud-africain, qui doit désormais décider de relancer ou non le dossier et éventuellement de renvoyer Jacob Zuma devant un tribunal. L'actuel chef de l'État est accusé d'avoir touché, alors qu'il était vice-président, des pots de vin pour un contrat d'armement de 4,2 milliards d'euros signé en 1999 par l'Afrique du Sud avec plusieurs entreprises européennes. Au Kenya, des centaines de partisans de l'opposition manifestent ce vendredi dans les principales villes du pays, bravant l'interdiction du gouvernement pour faire entendre leur opinion à l'approche de la présidentielle du 26 octobre. Le gouvernement kenyan a interdit hier les manifestations dans les centres d'affaires des principales villes du pays, Nairobi, Mombasa et Kisumu, en raison de la menace claire présentée imminente de troubles à l'ordre public, dit-il. Mais les partisans du leader d'opposition Raila Odinga n'ont pas hésité à défier cet ordre. En RDC, l'opposition parle de déclaration de guerre au peuple congolais. C'est en ces termes que les opposants ont réagi à l'annonce par Corneille Nanga, président de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, concernant la tenue des élections en 2019. Écoutez la réaction de Willy Delors Ongenda, porte-parole politique du Présidium de la Transition sans Kabila.
La CENI est en complicité avec M. Kabila pour le glissement sans fin parce que M. Kabila voudrait se maintenir au pouvoir indéfiniment. Au niveau du DNTCCT, nous ne reconnaissons plus le régime de M. Kabila que nous considérons comme un citoyen ordinaire. M. Kabila n'engage plus la République démocratique du Congo. M. Kabila est arrivé par la force, un coup d'État au Congo, et donc il veut partir par la force. Quand tous les moyens pacifiques sont épuisés, la violence, comme disait Nelson Mandela, devient légitime. Voilà où nous a mené M. Kabila.
Oui, Willy Delors Ongenda, secrétaire général de la Coalition des Congolais pour la Transition. Et puis au Libéria, l'ancien footballeur George Weah est en tête du premier tour de l'élection présidentielle dans 11 des 15 régions du pays, selon des résultats partiels annoncés jeudi. Les chiffres ont été fournis par le président de la commission électorale, Jérôme Korkoya, deux jours après le scrutin. Michel Joseph.
L'ancien buteur du Paris Saint-Germain et du Milan AC et le vice-président Joseph Boakai ont tous deux affiché leur confiance quant à l'issue du scrutin. Un représentant du Congrès pour le changement démocratique, auquel appartient George Weah, a lancé à la radio une invitation à une célébration de pré-victoire devant le siège du mouvement, envisageant même une victoire dès le premier tour. Mohamed Ali, directeur de campagne de Joseph Boakai, qui se présente pour le Parti de l'Unité, a quant à lui assuré à Reuters que les nouvelles en provenance de tout le pays annonçaient un second tour aisé pour le vice-président début novembre face à George Weah. Criant à la fraude, les formations de trois autres candidats ont annoncé leur intention de contester les résultats. Les observateurs de l'Union européenne, leurs collègues américains du Carter Center et ceux du National Democratic Institute n'ont toutefois signalé aucune irrégularité. En 2005, George Weah avait été battu par Ellen Johnson Sirleaf, première femme portée à la présidence d'un État africain, qui a été reconduite ensuite en 2011. Le Libéria, où deux guerres civiles ont fait rage entre 1989 et 2003, n'a pas connu d'alternance démocratique depuis 1944.
Guinée-Bissau, la rentrée des classes n'a toujours pas eu lieu dans le pays 10 jours après la date officielle de la reprise des cours. Motif, une grève des enseignants qui réclament le paiement d'arriérés de salaire paralyse l'école bissau-guinéenne. Yacouba Ouédraogo.
Le gouvernement de Bissau essaie depuis septembre de débusquer les fonctionnaires fictifs et ceux irrégulièrement recrutés. La décision a entraîné un blocage des salaires de plus de 8000 fonctionnaires, dont 4000 enseignants. Nous avons besoin de connaître la réalité pour corriger les nombreuses irrégularités, a déclaré le secrétaire d'État à la fonction publique, Marcelino Lopez Cabral. La rentrée des classes était prévue pour le 2 octobre. Les syndicats d'enseignants ont appelé leurs membres à suspendre toute activité tant que cette question n'est pas réglée. L'Union nationale des travailleurs de Guinée, UNTG, menace de déclencher une grève générale si les salaires ne sont pas versés et si les augmentations promises par le gouvernement en mai ne sont pas appliquées. La Guinée-Bissau, pays très pauvre, a déjà connu de multiples périodes d'instabilité marquées par des coups d'État et des mutineries de soldats.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
En Côte d'Ivoire, depuis la fin de la crise post-électorale en avril 2011, il règne à Bouaké, ancien fief de la rébellion, une atmosphère de méfiance et de défiance entre population civile et forces de l'ordre. Un climat délétère où la peur et le manque de confiance sont palpables de chaque côté de la barrière. La plateforme de la société civile pour la paix et la démocratie s'efforce de surmonter cet obstacle de Bouaké, notre correspondant Siriki Barrow.
Sillonnez les rues de Bouaké et vous tomberez certainement sur des scènes de chaudes discussions entre policiers et civils. Afin de venir à bout des flammes de ce torchon qui brûle entre les forces de l'ordre et les populations dont elles ont en charge la sécurité, la plateforme de la société civile pour la paix et la démocratie a décidé d'agir. Doumbia Soumaïla en est le coordonnateur général.
Les questions qui touchent la population, nous sommes saisis directement pour que nous puissions vraiment faire l'interface entre la population et les forces de l'ordre. Quand il y a des actions à mener en termes de sensibilisation, nous organisons des rencontres avec les leaders communautaires pour plancher sur les différentes questions et pour que les sensibilisations soient orientées à ce niveau.
Des résultats probants sont visibles sur le terrain, nous dit Doumbia Soumaïla, non sans exhorter les populations au respect de l'autorité.
C'est pas facile, mais il y a beaucoup d'avancées. Aujourd'hui, les populations qui se voyaient en chaîne de faïence avec les policiers, aujourd'hui, quand ils ont des problèmes, ils sont orientés vers ces policiers pour qu'ils puissent porter leurs plaintes. Il y a des mauvaises pratiques qui se faisaient, notamment les populations qui utilisaient les engins n'importe comment pendant les jours de mariage. Une réunion s'est tenue pour que tout cela soit freiné, pour éviter les nombreux accidents qui sont à notre disposition, qui veillent pour la sécurité de nos concitoyens. Nous leur devons vraiment un respect. Et nous devrons collaborer avec eux pour démanteler les pratiques néfastes dans notre société.
Les actions menées par la plateforme ont contribué à apaiser les tensions existantes. Dans une ville profondément marquée par la décennie de crise militaro-politique qu'a connue la Côte d'Ivoire, le chantier du retour à la confiance entre civils et hommes en tenue reste très certainement un des chantiers prioritaires. Siriki Barrow, Bouaké, pour VOA Afrique.
Afrique du Nord maintenant, l'ONU s'insurge contre le traitement des détenus en Libye. Le haut commissaire onusien aux droits de l'homme dénonce les nombreux abus et violations perpétrés dans plusieurs centres de détention dans le pays. Abdourahman Dia.
Selon Zaid Raad al-Hussein, la situation des droits de l'homme en Libye continue à être marquée par de nombreux abus et violations perpétrées par toutes les parties au conflit en toute impunité. M. al-Hussein est le premier responsable des droits de l'homme de l'ONU à se rendre en visite officielle dans ce pays. Pour lui, des milliers de personnes sont détenues arbitrairement, dont certaines depuis la guerre de 2011. Nombre d'entre elles ont été soumises à la torture et à de mauvais traitements, a-t-il affirmé. Le diplomate onusien s'insurge également contre les groupes armés qui tuent et retiennent en otage illégalement des civils et des combattants. Il a appelé le gouvernement à mettre fin à la pratique des détentions arbitraires et à s'assurer que les auteurs d'abus contre les migrants dans les centres de détention rendent des comptes. Un accord a été signé fin 2015 au Maroc et un gouvernement d'union a été mis en place à Tripoli, mais il est contesté par le général Khalifa Haftar, basé à Benghazi.
Et pour terminer, l'UNESCO, l'Agence onusienne pour l'éducation et la culture, continue à se chercher aujourd'hui un nouveau directeur général au lendemain du retrait des États-Unis et d'Israël de l'organisation. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.